Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Sophie Fontanelle dédie son dernier livre, « Les fables de la Fontanelle », à un homme qui, un jour, lui demanda « Mais au fond, à quoi riment nos vies sexuelles ?» À cela, l'écrivaine et journaliste aurait répondu « Elles riment, ce n'est pas rien. » C'est donc sans chercher à disséquer leur sens ou à délivrer une quelconque morale qu'elle signe ces textes drôles et enlevés dans lesquels se côtoient ghosting, simulation et quête du plaisir. Sophie Fontanelle ne s'aventure pas pour la première fois dans l'écriture des relations amoureuses et de la sexualité. Son personnage de Fonelle, inventé pour les pages du mensuel Elle, avait donné naissance en 2004 au livre « Fonelle est amoureuse ». Quelques années plus tard, la romancière signait « L'envie », dans lequel elle dépeignait sa propre abstinence sexuelle. Et pourtant, elle déclare dans ce nouvel épisode du Book Club « Ne rien savoir de l'amour ». Ce qui la rapproche du jeune héros du livre du jour, Arturo, un adolescent de 14 ans qui se confronte aux sentiments amoureux et à ses premières désillusions. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
Alors je suis devant ma bibliothèque, elle fait un mur entier de l'appartement, et puis il y en a encore une autre immense dans ma chambre, parce que là je suis dans le salon, enfin dans le bureau. Il y en a encore une autre, plus petite, au bout du salon. Et bref, j'ai mis des livres partout. Mais pour autant, il faut quand même que je dise que j'en ai surtout sucré. J'en ai bazardé, mais des quantités. Et les fringues, c'est pareil. Je traite à ce niveau-là les vêtements et les livres de la même manière. Mais pour moi, les deux sont incroyablement liés. Les deux sont chargés de poésie, de culture, de sens, enfin... C'est pas du tout des choses opposées. Donc, je suis dans ma bibliothèque, disons, la principale, là. Devant ma bibliothèque. Il faudrait que je rajoute des planches pour pouvoir ranger tous mes livres qui sont, du coup, empilés dans ces rayonnages. C'est un peu le bordel, même si j'essaie de ranger avec la littérature anglaise à un endroit, la littérature française à l'autre. Mais enfin, j'ai beau ranger, c'est exactement comme les vêtements. J'ai beau ranger, une semaine plus tard, c'est le bordel. Je sais pas comment je fais. Il n'y a que les Agatha Christie que j'ai pu mettre à un endroit précisément, qui est une toute petite bibliothèque qui est là, que je vois. Et parce qu'ils ont, c'est toute une édition ancienne où ils sont cartonnés orange. Et c'est, j'adore cette collection. Je les ai tous lus. Je sais pas, Agatha Christie, c'est ceux que j'ai lus le plus. Donc j'ai dû les lire peut-être 20 fois chacun, quelque chose comme ça. Parfois, quand j'ai pas le moral, je me fais un week-end Agatha Christie. Je vois plus personne. Parfois, j'invente que je suis partie en week-end et je lis des Agatha Christie. Ça m'apaise incroyablement. Je sais pas pourquoi. C'est un monde. Ça fait appel à l'intelligence. Cet Hercule Poirot m'éblouit de son intelligence. J'aime bien les vêtements qui sont décrits, les styles vestimentaires des gens là-dedans. Pour moi, encore une fois, ça compte énormément. On peut bien m'expliquer que c'est pas de la grande littérature. De toute manière, je suis pas d'accord. Il y a d'ailleurs eu des thèses écrites sur Agatha Christie, un formidable bouquin qui analyse comment l'intelligence circule dans les histoires. Donc voilà, c'est mon refuge. tout en haut, sur le dernier rayonnage, il y a mes propres livres. Je les donne quand je vais dîner chez les gens ou voilà, j'en apporte. Mais moi, ces livres-là, je les relis pas, très très peu, et je sais pas quoi en faire. Un jour, j'avais lu dans un livre qui s'appelle « L'art et l'artiste » de Otto Rank que les on repère un écrivain ou une écrivaine au fait qu'il se désintéresse ou elle se désintéresse complètement des livres après les avoir écrits. Et c'est totalement mon cas. Le livre, même quand il a été... il n'est même pas encore imprimé que je m'en désintéresse. Quand je le reçois imprimé dans son petit exemplaire, son premier exemplaire, je m'empresse de le lire pour voir s'il n'y a pas de coquille, comme on dit, de faute. Mais il n'a plus pour moi le moindre intérêt. Et c'est fou, parce qu'il faut que je le... faut que j'en parle. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je le rejette. C'est juste que je ne suis plus là, en fait. De même que j'ai rien à prouver par les bouquins que je possède... J'ai pas non plus grand chose à prouver par les bouquins que je lis. Je suis pas du genre à dire, tiens, ben voilà, je vais garder à la recherche du temps perdu parce que je l'ai lu. Je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie et à chaque fois, je me suis débarrassée des bouquins. Ça se rachète. Et je trouve qu'en fait, les bouquins qu'on aime, au lieu de les garder, on devrait les bazarder pour pouvoir se les racheter. Parce que du coup, ça les fait vivre aussi, en fait, de retourner à la librairie, de les acheter. Ça fait que le libraire en recommande. Je comprends pas pourquoi il y a ce fétichisme à garder les bouquins, mais bon. Je me souviens d'un éditeur qui voulait que j'aille dans sa maison d'édition, et pour m'appâter, pour me faire changer de maison d'édition, il me disait « Toi, t'as du succès avec tes livres. » Bon, tout est relatif, mais disons qu'en fait, j'ai plus de succès que d'autres gens. Et il me disait « Ce qui te manque, c'est une crédibilité littéraire. Oh, » j'avais éclaté de rire. Quelle mauvaise façon de m'appâter, quoi. J'avais répondu à cet homme que je m'étais accordé la crédibilité littéraire, le jour où, vers 9 ans, j'avais pris un stylo et où j'avais écrit un poème, d'ailleurs. C'était ça, ce que j'ai écrit en premier. Et j'avais trouvé ça suffisamment crédible pour le recopier dans un carnet et puis après, le lire à voix haute. Et sans avoir trop peur du regard des gens, parce que j'avais déjà établi que c'était déjà fantastique que quelque chose comme ça soit sorti de moi. C'était peut-être de la merde. Après, je me suis perfectionnée. Aujourd'hui, ça continue. J'ai pas peur, en fait, de montrer ce que j'écris aux autres. Je suis jamais paralysée par ça. J'ai jamais d'angoisse de la feuille blanche. Et je me dis pas que je suis un génie, mais je me dis que ma vie, c'est ça, c'est l'écriture. Et je me dis pas que mon écriture vaut plus que les autres. Je me dis que puisque mon écriture et ma vie sont une seule même chose, dans mon cas, c'est vraiment ça. Je passe ma vie à écrire, donc je me dis, j'ai pas à avoir honte, en fait. Si ça plaît pas à des gens qui passent leur chemin, c'est comme ça que je vois ça. Il y a un rayonnage qui est consacré à des livres en langue anglaise. C'est très important pour moi de lire dans plusieurs langues. J'ai même des livres en langue italienne, alors que je parle très mal italien, mais je le lis pas mal, en fait. Il y a certains livres que je lis par rapport à l'intelligence à laquelle ils font appel. Donc, c'est des bouquins où il faut un petit effort, parce que c'est pas votre langue, il faut un petit effort pour se mettre dedans. On est découragé au début, on dit « mais je pourrais jamais passer les pages », puis finalement, on entre dans cette langue, et ça fait comme un séjour linguistique. On arrête de regarder le dictionnaire, on déduit, on comprend de travers, et puis c'est bien, comme ça. Pas plus tard que avant-hier, j'ai pris comme ça des nouvelles de William Saroyan. J'étais plongée dans une nouvelle qui s'appelle La Cocktail Party. Je ne sais pas si j'ai bien compris, en fait, la nouvelle. Pourtant, aujourd'hui, je suis, comme on dit, fluente en anglais. Mais bon, c'est toutes les subtilités de la langue. Je ne sais pas si je sais pas à chaque fois si je comprends tout. Alors, ce que je comprends m'émerveille. J'adore la langue de Saroyan. Elle est extrêmement simple. Et sans cesse, les personnages font quelque chose de déroutant. Et c'est pour ça qu'on comprend mal, même si on parle anglais, parce qu'on se dit c'est quand même pas possible que ce soit ça. Mais bon, je me laisse embarquer. Et même si l'histoire que je me raconte est encore une autre de celle qu'il voulait raconter, bah ça me plaît. J'ai choisi l'île d'Arturo, d'Elsa Morant. Donc d'abord parce que Elsa Morant, c'est une femme. Et que je pensais que, bon, écoutez, elles ont été tellement, les femmes, dénigrée, c'est quand même pas mal de parler de celle-là. En plus, cette femme, c'est une géante. Je l'ai achetée, je me souviens, dans une librairie. J'ai lu que c'était un garçon qui, à 14 ans, tombait amoureux alors qu'il ne comprenait pas ce qu'était l'amour. Bon, ça m'a plu, cette espèce d'histoire. C'est un garçon qui est élevé sur une île, à Protida, qui existe, Protida en Italie, au large de Naples. Il est élevé sans femme. Sa mère est morte, peut-être en le mettant au monde. Son père est toujours en voyage. Il est élevé par un vieil homme, dans les années 50, je dirais. Et il lit des romans. Il y a plein de romans dans cette maison où il est. Et il lit des romans, et il lit La Princesse de Clèves. Et il a une vision des femmes entièrement fausse, en fait. Il a une vision héroïque des femmes. Et un jour, son père rentre de voyage et son père s'est marié. Il a une nouvelle femme et cette épouse a 14 ans. Et le héros a 14 ans aussi. Et quand il voit cette jeune fille, il ne sait pas pourquoi, il a envie de faire quelque chose de violent. Par exemple, de sauter sur le mur. Et il le fait. Et puis, il a envie de faire une acrobatie un autre jour, de dingue. Et il le fait. Et puis, elle tombe enceinte de son mari, qui est le père de ce garçon. Et il voit le ventre s'arrondir, il voit le bébé naître et il déteste ce bébé. Tout ça, c'est parce qu'il est amoureux d'elle. Et il ne le comprend pas. Et il ne s'en doute pas une seule seconde. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est que faire l'amour. Il ne sait rien. Et elle sait tout. Et je trouve que c'est tellement beau cette femme qui est au courant de tout, qui comprend que c'est l'amour, mais qui ne peut pas y aller parce que... C'est le fils de son mari. Enfin, je trouve cette histoire absolument géniale. De la pureté de l'ignorance. Voilà, c'est un truc dingue. L'île de Procida, j'ai jamais voulu y aller encore. J'ai tourné autour en bateau, hein, mais j'ai jamais voulu y aller parce que dans la manière dont elle est décrite, j'ai l'impression que cet endroit ne peut exister que dans un livre. Et j'ai été tellement déçue quand je suis allée au château d'If par rapport au comte de Monte Cristo que j'ai pas envie d'aller à Procida. Et pour moi, le parcours d'Arturo, c'est le mien, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression de rien savoir à ce que c'est réellement l'amour, à ce que c'est réellement les corps. En tout cas, de rien savoir à ce que c'est ensemble, le sentiment amoureux et le désir. Et j'ai l'impression que c'est pas un truc, je sais pas comment font les gens pour y arriver, etc. Donc c'est ce garçon décrit dans son ignorance et dans... Et à quel point il est ballot à pas comprendre, bah c'est moi en fait. Donc voilà, peut-être pour ça que j'en ai parlé. Mais c'est pas par égocentrisme, c'est parce qu'enfin quelqu'un a pu exprimer ça, et c'est une femme qui l'a exprimé. Donc je me dis que je me sens moins seule en fait. Je me dis que si une femme l'a exprimé, c'est qu'elle sait que beaucoup d'êtres humains ressentent la même chose que moi.
Vous venez d'écouter Sophie Fontanelle qui répondait à mes questions à son micro. Elle vous recommande L'île d'Arturo, d'Elsa Morante, publiée chez Gallimard et disponible en folio, ainsi que toute l'œuvre d'Agatha Christie. Sophie Fontanelle est journaliste et écrivaine. Elle vient de sortir Les Fables de la Fontanelle chez Robert Laffont. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Si vous avez aimé cet épisode, je vous recommande le dernier épisode de notre podcast Émotion, dans lequel la fierté est décortiquée et analysée. Bonne écoute et à très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.